Je voudrais aborder ce matin un autre thème qui sont les principes de tolérance dans l'Église et à propos de questions biologiques. Vous savez, le bios, c'est le vivant, hein, une question biologique. Non pas les questions spirituelles, mais les questions biologiques. Alors, c'est une réflexion qui est suivie de plusieurs entretiens que j'ai eus cette semaine avec Maggie. Je ne la vois pas ici, je ne sais pas si elle est là, peut-être en bas. On a plusieurs fois échangé, en particulier suite à ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe. Et ça m'a permis de dire, c'est vrai, qu'il faut que j'aborde cette question, hein, je ne peux pas me dérober, par rapport à cette question qui a besoin d'être éclairée pour les chrétiens, et en particulier les chrétiens de notre Église. Alors, c'est la question vaccinale. Vous savez qu'aujourd'hui, la question vaccinale est quelque chose qui divise beaucoup la population, monsieur les chrétiens. Et en particulier en Martinique, Guadeloupe, je crois que les chiffres sont 18% de vaccination, alors qu'en France, il semble que c'est 70 pour la première, hein, 50 pour les deux injections. Donc il y a bien une question, pourquoi, etc. Et donc j'en ai beaucoup parlé avec Maggie, et j'aimerais aborder ce matin pour certains chrétiens, d'ailleurs, elle m'a passé des vidéos, qui reprochent au pasteur de ne pas s'exprimer là-dessus. Et c'est vrai que on peut rester dans le silence, hein, laisser passer les choses. Et c'est ce que je n'ai pas fait, parce que j'avais abordé cette question début juillet. Vous pouvez revoir la prédication, puisque tous les cultes sont enregistrés. Et j'avais abordé la question en recommandant l'utilisation de la sagesse, rappelez-vous. Vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs thèmes de livres, il y a 66 livres, et il y a 5 livres sur la sagesse. Donc, vous savez, et pas que la sagesse de Dieu, c'est la sagesse des hommes aussi. Comment se comporter, comment être chrétien en utilisant sa raison, sa pensée. Et donc, j'ai parlé là-dessus en vous invitant à utiliser votre sagesse. Mais ce matin, je voudrais aller un peu plus loin, parce que je vois que c'est absolument indispensable d'avoir un éclairage qui vous aide et qui aide aussi à connaître ma position sur la question. Alors, je me place en tant qu'autorité spirituelle, hein, puisque en tant que pasteur, j'ai une autorité spirituelle. Et cette autorité spirituelle ne me pousse pas à renoncer à mes compétences scientifiques, puisque j'ai eu formation scientifique, et que quand j'ai rencontré le Seigneur, quand j'avais 20 ans, ça fait un petit bout de temps de ça, en 67, 68, eh bien le Seigneur m'a clairement dit, tu me serviras en restant dans ton métier. Donc j'ai eu une vocation bivocationnelle, deux vocations, en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique, et l'autre en tant que pasteur. Donc je ne peux pas renoncer à cette compétence qu'il m'a donnée et qui m'a demandé de le servir dans ces deux domaines. Mais ils ne doivent pas être utilisés ni pour vous abuser, ou pire, vous manipuler, mais vous éclairer. Donc ce message ce matin, c'est pour vous éclairer. En tout cas, selon ma compréhension avec la sagesse. Je me dois vous donner de connaître ma position sur ce sujet et être une voix de vérité objective dans le bruit des fausses informations qui circulent. En anglais, ça s'appelle fake news. En français, c'est, comment ça s'appelle, infox. Voilà. Il y en a partout. On n'a jamais vécu dans une société avec autant d'informations fausses. On appelle ça aussi le complotisme qui alimente ces informations fausses qui sont présentées comme vraies, et ceux qui n'ont pas la compétence, n'ont pas toujours de vérifier, eh bien on suit ces informations et on est abusé. Alors l'abus là, il existe véritablement, mais parfois souvent de manière inconsciente de notre part. Donc je me dois d'approcher les choses de manière objective telle que Le Seigneur m'a formé dans le domaine, disons, scientifique. Sachant qu'il y a plusieurs façons d'être scientifique, la façon d'observer, hein, la démarche ODHC, c'est-à-dire observation, description, hypothèse et comparaison, donc c'est ce qui permet de découvrir les lois de Dieu, et d'autres démarches scientifiques, comme par exemple la théorie de l'évolution, qui est une théorie, qui reste toujours une théorie, puisqu'elle n'a jamais été vérifiée, ne sera jamais vérifiée d'ailleurs, et qu'on appelle scientifique. Donc je ne place pas de ce côté-là, je place du côté de la découverte des lois, parce que depuis toujours, on sait que Dieu gouverne par ses lois. Vous savez, le soleil qui se lève tous les matins, ce n'est pas Dieu qui lui dit de se lever, de se coucher. Il a établi des lois, c'est des lois de la gravitation universelle, etc., qui agissent. C'est Dieu qui est au départ, mais après, bien sûr, c'est les lois qui continuent à gouverner, qui viennent de Dieu. Donc tout ça, c'est une démarche scientifique. Alors, de quoi parlons-nous ce matin? Eh bien, de questions biologiques, questions du vivant. Et cette question de vaccination concerne notre corps naturel, non pas notre corps spirituel, notre corps naturel. Et donc, ce n'est pas une question spirituelle. Alors, est-ce que la Bible approche ce genre de questions? Et c'est toute la question où se trouvent ces versets, où se trouvent ces passages qui peuvent nous éclairer. Donc, j'aborderai tout à l'heure Romains 14, qu'il évoque extrêmement clairement pendant tout un chapitre qui est très long, d'ailleurs, et que Paul utilise pour éclairer spirituellement les chrétiens de ces questions. Alors, toujours pareil, quand on est coincé, quand on ne sait pas trop comment aborder les choses, dans l'Église, le Seigneur nous a appris à utiliser la clarté, le droit, qui conduit à l'autorité. Clarté, c'est éclairer le sujet, comprendre de quoi on parle, éviter les confusions, éviter de dire voilà, ce qu'on pense, au lieu de dire ce qui est objectif, ce qui existe réellement. Et surtout, concernant la nature objective, eh bien, ce qu'on peut constater des faits. Ensuite, après, le droit et l'autorité qui vient à la suite de cet établissement du droit. Alors, je suis obligé, pour être objectif, de parler des avancées médicales dans l'histoire, hein, donc du vivant, du biologique. Vous savez que notre corps est soumis à la maladie, à cause du péché. Hein, dans l'Éden, il n'y avait pas de maladie. Et quand on sera avec le Seigneur, il n'y aura plus non plus. D'ailleurs, il y a même un arbre qui se trouve dans l'Apocalypse, qui est là pour la guérison des nations et qui parle justement de ce renouvellement constant. Même s'il y avait une maladie, elle est guérie automatiquement par cet arbre qui est Jésus. Donc, on sait qu'avec le Seigneur, eh bien, on aura un corps parfait, comme d'ailleurs Jésus a actuellement un corps parfait. Puisqu'il a été ressuscité d'entre les morts avec ce corps avec lequel il s'est manifesté à ses disciples et qui anticipe le nôtre. Et c'est ça notre espérance, c'est d'être comme Jésus, puisque c'est le deuxième Adam. Le premier Adam, il nous a amené la maladie, le deuxième, il nous apporte la vie éternelle et le corps de résurrection. Donc ça, c'est notre foi et notre avenir, dans lequel nous avons l'assurance. Alors, il faut parler des avancées médicales. Comment le Seigneur a permis aux hommes de traiter la question de la maladie et de la mort qui ravage notre humanité depuis l'origine, et quelles sont les avancées médicales qui, d'ailleurs, souvent ont été faites par des chrétiens en Occident. Il y a tous les chrétiens qui ont reçu soit des révélations d'un médicament, etc. Et là, il y a des exemples extrêmement nombreux de la manière dont Dieu a permis à ce que l'humanité puisse être soulagée sur le plan médical. Alors, il y a trois avancées majeures de la médecine que j'aimerais évoquer, donc trois avancées objectives hein, qui font partie de notre histoire, que vous pouvez vérifier, et qui ont soulagé considérablement l'humanité. Personnellement, mais je pense que vous aussi, j'aimerais pas vivre au Moyen-Âge, hein, avec la peste, avec tout le choléra, avec tout ce qui a été vécu, avec l'horreur de ce qu'on a vécu. Donc on peut bénir le Seigneur de ce qu'on vit dans une société qui a les possibilités d'intervenir. Encore cette semaine, souvent j'écoute France Culture, toute la semaine c'était sur la fièvre puerpérale qui a emmené 20% des femmes en couche jusqu'à la découverte des antibiotiques. Ils mouraient, ou l'enfant mourait, ou elle mourait, ou les deux mouraient, voilà, tant qu'on n'avait pas les antibiotiques avec la fièvre puerpérale. Donc ça fait partie pratiquement de de mon âge où nos parents nous racontaient ça, où ils ont au moins, ma mère, enfin ma grand-mère en tout cas, à côté de ma mère, ils ont perdu au moins deux enfants de cette fièvre puerpérale et d'autres, bien sûr. Voilà, donc ces avancées, le Seigneur a permis de soulager toutes ces maladies qui étaient souvent conduisaient à la mort. Alors, qu'en est-il de la vaccination? Qu'en est-il des antibiotiques? Qu'en est-il de l'ARN messager? Ce sont ces trois éléments que je vais évoquer de manière objective. L'histoire de la vaccination, depuis l'Antiquité, on s'est aperçu qu'une épidémie de virus s'arrêtait lorsque la majorité des humains avaient attrapé la maladie. Ça, on l'avait constaté, hein, plus de la moitié mourait, la population, puis d'autres l'attrapaient, mais ils s'en sortaient, etc. Et à un moment donné, ça s'arrêtait. C'est vrai de la grippe espagnole, d'ailleurs, etc. Donc ça, on l'a constaté depuis toujours. Mais on n'avait pas l'idée de comment l'arrêter, comment éviter un tel massacre général de la population. Et la première vaccination, on ne le connaît pas trop, parce qu'on pense beaucoup à Pasteur, a eu lieu en 1796. Donc pour vous situer, hein, la Révolution française, 1789, donc quelques années après cette Révolution française, donc cette époque-là, 18e siècle, la première vaccination a eu lieu, et c'est Jenner, c'est un Britannique, un Anglais, qui a eu l'idée de vacciner un patient qui avait la variole. Donc, d'ailleurs, vaccine vient de vache, la variole de la vache, hein, vaccine qui est le vaccin de la vache. Et les vaches avaient à l'époque, eh bien, une maladie de la variole, et les hommes aussi. Et il a eu l'idée de prendre le virus qui se trouve dans les testicules de la vache pour l'injecter aux hommes. Et il a constaté une guérison, simplement en injectant un virus qui était proche, qui n'était pas le même virus, mais qui faisait développer des anticorps pour protéger les hommes de ce moment. Ensuite, le deuxième élément objectif de la vaccination, c'est bien sûr Pasteur. Mais c'est 1885, voyez-vous ? Donc c'est presque 100 ans après. Hein. Vous voyez, les recherches, souvent, les recherches sont souvent assez longues. Même si on peut faire une découverte, il y a des mises au point qui sont nécessaires, ce qu'il faut d'abord comprendre. Pourquoi ce virus des testicules de la vache ont réussi à arrêter la variole. Donc en 1885, vous connaissez bien l'histoire, hein, c'est le petit Alsacien là, qui a été mordu par un renard qui avait la rage. Hein, et donc on savait qu'il allait mourir, parce que à ce moment-là, on n'avait pas de moyen d'éviter que la rage amène la mort. Et donc, il a injecté des anticorps, hein, qui, à ce moment-là, étaient le vaccin antirabique, qui aujourd'hui existe encore, hein, et qu'on vous demande de prendre si vous voulez éviter la rage. Sauf que on a tellement éliminé les renards et tout ça, que encore que il y a toujours une, même en région parisienne, Michel qui était adjoint au maire recevait des informations. On a vu un renard dans l'Oise, machin, etc. Il a attrapé les queues de renard, etc. Pour justement éviter, hein, que la rage revienne. Donc il y a toujours une, voilà, une précaution, une attention à ce que cette maladie puisse revenir, mais on a éradiqué, comme d'autres, grâce à la vaccination. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je voulais juste vous rappeler objectivement ce que c'est que la vaccination et comment elle a commencé. La deuxième chose qui est une avancée majeure, hein, ce sont les antibiotiques. Les antibiotiques ont été une avancée médicale contre les bactéries. Et on, disons, l'Organisation mondiale reconnaît que grâce à la découverte de ces antibiotiques, l'humanité tout entière a gagné 10 ans sur l'espérance de vie. C'est quand même pas mal. On a gagné 10 ans grâce à la découverte des antibiotiques. Donc, je parlais tout à l'heure de la fièvre puerpérale et bien d'autres. D'ailleurs, Michel, mon épouse, avait sa mère qui a eu ça et elle ne serait plus là si elle n'avait pas eu des antibiotiques pour la sortir d'affaire lorsqu'elle a eu ça. Donc, vous voyez, on a encore la mémoire, le souvenir présent dans notre génération de l'efficacité des antibiotiques. C'est une découverte majeure qui a été faite au XXe siècle, donc avec 10 ans d'espérance de vie en plus, et ça vient du grec contre, donc anti-contre, et biotikos, la biologie, hein, qui concerne la vie, sont des substances chimiques, naturelles ou synthétiques, qui ont une action spécifique sur les micro-organismes, donc les bactéries ou les protozoaires, mais pas d'action sur les virus. Vous voyez, c'est-à-dire que virus, c'est autre chose. Et les antibiotiques sont efficaces pour les bactéries, mais pas les virus. Le biologiste français, c'est un Français en 1930, qui travaillait aux États-Unis, René Dubos, qui a eu la première découverte de cette bactérie qui pouvait effectivement amener un médicament, un antibiotique. En 1940, on connaît bien un certain nombre de gens, dont Fleming, hein, ils ont saisi l'intérêt de cette découverte, puisque Fleming aussi a été un petit peu plus tard, en 1932, dans cette découverte. Et en 1941, les laboratoires Pfizer, dont on parle maintenant avec les vaccins Pfizer aux États-Unis, résolvent la difficulté. Vous savez, il y a une découverte, mais après, il y a la mise en œuvre. En plus, pour une vaccination, ça nécessite énormément de précautions avant de l'injecter dans une personne. Eh bien, les laboratoires ont résolu la difficulté d'une production en grande quantité. Puisqu'on parle d'épidémie ou de pandémie. L'épidémie, c'est local, c'est dans un pays. La pandémie, c'est tous les États du monde entier. C'est ce qui est le cas en ce moment. Eh bien, il fallait faire des médicaments en grande quantité. C'est encore un autre problème. Il ne suffit pas de découvrir quelque chose. Il faut être capable de le faire en grande quantité, ce qui est le cas actuellement. Et donc, c'est le laboratoire Pfizer qui ont réussi à maîtriser ce défi. Fleming, Florey, Chain ont reçu le prix Nobel de médecine en 1945 pour cette découverte qui, effectivement, a donné lieu aux antibiotiques. Alors, la dernière découverte en date, c'est la découverte de l'ARN messager, ou ARN M, contre les virus. Pour moi, c'est un miracle scientifique moderne du XXe siècle, appliqué au Covid-19 au XXIe siècle, donc 60 ans après. Alors, c'est quoi ? Tout le monde qui sont en recherche vont vous dire que le corps produit de l'ARN messager à partir de l'ADN. Et c'est simplement une copie d'un élément de l'ADN qui permet de le transmettre des informations à une protéine pour développer des anticorps. Voilà. Donc ça, c'est Dieu qui l'a fait. c'est encore une loi. La découverte, c'est souvent une loi hein, de ce que Dieu a fait pour que le corps puisse se protéger. Donc c'est une découverte qui a été faite par, là aussi, trois Français hein, qui sont là en 1961. Ils l'ont découvert et ils ont obtenu le prix Nobel en 1965. Donc l'ARN messager ne date pas d'hier. Il n'a pas été découvert l'année dernière ou l'année d'avant. Hein. C'est en 1961. 60 ans après, des travaux considérables qui ont été faits, donc 60 ans. Tout à l'heure, on parlait de 100 ans entre Jenner et puis, puis Pasteur. Vous voyez, là, 60 ans, c'est des temps assez longs entre une découverte et un vaccin. 60 ans après, des travaux supplémentaires depuis sa découverte pour concevoir des virus spécifiques qu'on injecte, comme c'est le cas actuellement, pour développer une capacité virale, une capacité d'anticorps pour contrer le virus qui atteint les poumons et qui amène la mort dans les cas graves. Donc c'est une mise au point contre la Covid qui a duré 42 jours. Si vous ne le savez pas, c'est une donnée scientifique, une donnée objective, en 42 jours. 42 jours. À partir du moment où le Covid-19, donc le coronavirus, a été décrit de manière génétique par des scientifiques, ça a duré une journée. Vous voyez. Alors ça, c'est la... Je dirais la magie, c'est la magie de l'informatique. C'est grâce à l'informatique que c'est possible. Voyez, aujourd'hui, ce vaccin, c'est principalement de l'informatique qui a permis de faire cette avancée. Donc, la description a été faite avec tout un tas de codes, hein, qui est le code du virus, qui a été transmis pratiquement le jour même à tous les scientifiques du monde entier qui ont eu cette base de données. Et à partir de là, ils ont pu directement sur leur ordinateur, ceux qui sont bien sûr dans ces compétences scientifiques, ils ont pu travailler dessus. Et en 42 jours, Moderna a pu définir un vaccin. Après 42 jours, ils n'ont pas sorti le vaccin, mais ils ont pu savoir comment, la structure génétique de ce vaccin pour qu'il puisse être efficace. Il a été suivi par BioNTech et Pfizer qui l'a produit. Et donc, c'est contre un virus spécifique qui a été décrit spécifiquement lorsqu'il a été découvert, bien sûr, en Chine. Maintenant, il y a d'autres variants, mais à chaque fois qu'on a des variants, on peut le décrire et on peut produire un vaccin. C'est incroyable, ça. Vous voyez, on n'a plus besoin de centaines d'années pour décrire. Avec l'informatique, on peut décrire effectivement quelle est la forme du vaccin pour pouvoir agir contre. Cette découverte a été autorisée par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, par l'AMM, qui est aussi internationale, et par l'HAS, qui est la société française. Donc, il a fallu passer toutes ces barrières qui prédéterminent, avant la commercialisation, quelles sont les règles que ce vaccin doit avoir pour être administré à des êtres humains. Et donc, l'ensemble de ces règles ont été franchies le 21 décembre 2020 et pour Pfizer et 6 janvier pour Moderna. Ça, je vous livre des informations, vous pouvez tous vérifier, qui d'ailleurs se trouve, je vous l'ai déjà indiqué, sur une vidéo d'Arte, qui s'appelle « La course au virus ». Et vous avez toutes ces informations, mais vous pouvez même aller dans des articles précis. De toute façon, c'est historique. Ce que je vous donne, ce n'est pas des informations voilà, qui sont du fake news. Alors attention à l'amalgame, j'en arrive à la Martinique et à la Guadeloupe, attention à l'amalgame entre le vaccin ARN et le chlordécone. Parce qu'en fait, le gros problème de la Martinique et de Guadeloupe, qui ne se font pas vacciner d'après mes informations, c'est à cause du chlordécone. Alors c'est quoi le chlordécone? Et en fait, il y a un gros amalgame qui se fait. C'est pour ça que je commence par la clarté. Ensuite, après, j'amène le droit et l'autorité. Le chlordécone, que je ne connaissais absolument pas, parce que je ne m'y suis pas intéressé, et puis les informations ne sont pas venues jusqu'à nous, c'est quelque chose qui traumatise les Antillais, que ce soit la Martinique ou la Guadeloupe. Et j'en ai longuement parlé avec Maggie, effectivement, c'est vraiment un trauma. Alors c'est quoi le chlordécone? Eh bien, les habitants des Antilles ont été abusés avec cette molécule par les autorités. Et ils sont maintenant réticents à la vaccination contre la Covid-19, méfiants de ces mêmes autorités, avec la perspective d'être à nouveau abusés, et on les comprend. Et tout à l'heure, on va prier spécifiquement pour cette situation sanitaire qui traumatise les Antillais, on le comprend. Alors, en fait, c'est un scandale, bien sûr, sanitaire, le scandale du chlordécone. Pourquoi ? Parce que c'est un pesticide. Alors, ce n'est pas un vaccin. Vous voyez, déjà, là, il y a des chrétiens qui font un amalgame considérable entre un pesticide et un vaccin qui n'a rien à voir. Un pesticide, c'est parce que la production des bananes est très, très importante et elle couvre toute l'économie de la Martinique et des Antilles dépend de la banane. Et il y a donc des insectes qui se mettaient au pied de l'arbre et qui le faisaient mourir. Donc c'était extrêmement grave, il fallait trouver une solution. Et ce pesticide qui a été développé, c'est une molécule qu'on appelait une molécule miracle. Tout le monde l'appelait molécule miracle, parce qu'au moment où on l'administrait, eh bien, toutes les bananeraies se portaient à merveille. Et l'économie était florissante, bien sûr, dans ces îles. Une molécule donc de la banane, mais poison pour l'homme. Mais on ne le savait pas au départ, comme d'ailleurs aujourd'hui, avec d'autres pesticides, hein, comme, rappelez-moi le nom, pardon ? Glyphosate. Glyphosate, voilà, ça. Glyphosate, et vous voyez, là, on est sur une autre problématique de vie, c'est détruire les parasites qui nous entourent. Il y a des parasites partout. Voilà. Il y en a certains avec lesquels on peut vivre, et puis d'autres qui nous empoisonnent, et puis qui empoisonnent aussi la production. Moi, en Alsace, j'enlevais les doryphores sur les pommes de terre. Ma mère me disait, c'est les Américains qui l'ont amené. Vrai, faux, après la guerre, il n'y en avait pas. Doryphore, ça peut vous bouffer en l'espace de quelques jours toutes les patates. Et du coup, il bouffe les feuilles et c'est terminé, vous n'avez plus de patates. Donc, en été, on allait dans les champs et on prenait les doryphores et puis on les écrasait, on avait des quantités énormes de doryphores, etc. Bon, heureusement, ici, je n'en ai pas eu, j'ai des patates, mais je n'ai pas eu de doryphores. C'est à quoi je remercie le Seigneur. Parce qu'il faudrait soit les prendre physiquement, pour pas qu'ils bouffent tout, ou alors faire un produit, un insecticide. Ça. Donc vous voyez, c'est une problématique effectivement du vivant auquel l'homme est confronté. Et ayant trouvé cette molécule miracle, quand on l'a administrée, tous les bananiers, c'était formidable. Il a été déclaré cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé en 1979, alors qu'il avait été sorti en 68-69. Voyez, donc presque 10 ans après, avec des études, ils ont dit attention, c'est un produit cancérigène. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de cancers dans les îles, dans les Antilles. Mais il a été autorisé par l'État français jusqu'en 93. Donc au lieu de le retirer en 79, suite aux injonctions de l'OMS sur le danger, eh bien, ça a été reconduit. Une autorisation provisoire, mais vous savez, le provisoire qui dure, et d'année en année, jusqu'en 93, où ça a été interdit aux Antilles. Mais trop tard, sachant qu'ils se sont aperçus que ce produit durait 700 ans. C'est-à-dire qu'il a une durée de vie, si vous voulez, de 700 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est pollué, le sol, l'air, la mer, puisque les eaux souterraines, les poissons, etc. Je n'étais pas conscient avant cette semaine, vous voyez, avec Maggie, j'étais obligé de m'informer un peu à la source pour comprendre le trauma des Antilles. Mais à qui la faute? Et c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, on saute tout de suite de la cause à une conclusion. Et c'est ça le problème. La conclusion, c'est les autorités. Mais quelles autorités? Quelles sont les autorités? Ah, c'est Macron? Ben non, il n'existait pas à l'époque. C'est qui? Alors Macron va payer pour tous les autres avant. Et à l'époque, qui est-ce qui a donné l'autorisation? Bah, c'était l'époque de Mitterrand, il y avait des ministres très influents, qui étaient connus, etc. Mais en plus, on va vous dire, parce que j'ai regardé la commission d'enquête, enquête parlementaire, eh bien en fait, c'était démocratiquement, ça a été voté, cette autorisation, oui, je ne sais pas combien ils étaient, peut-être 10, 10 dans un comité démocratique, ils ont levé la main, et il se trouve que les ministres de l'époque disent, bah, la majorité, donc sur 10, admettons, il y en a 6 qui ont voté pour, et d'autres 4 non. Mais en fait, tout dépend de la composition de la commission, comprenez? Dans ces commissions, il y avait beaucoup de lobbyistes pour ce médicament, cette molécule miracle, et moins d'écologistes, par exemple, des choses comme ça. Vous voyez, donc, c'est là la fragilité de la démocratie. Démocratie, c'est OK, consensus, mais suivant la composition des gens, vous n'avez pas le même consensus. Bon, ça, c'est un autre débat que je n'aborderai pas ce matin. Toujours est-il que la cause. C'est la cupidité des hommes. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le vaccin. Il faut arrêter de faire des amalgames. La cupidité des autorités métropolitaines et antillaises. Je suis désolé. Les autorités antillaises, donc des autorités locales, ne voulaient absolument pas que l'économie s'écroule. Parce que, par ailleurs, d'ailleurs, on a parlé avec Oscar et Paola qui viennent de la Colombie, cette molécule est utilisée en Honduras, en Nicaragua pour les bananes, etc. Donc on ne sait pas. Mais voilà. Donc c'est à celui qui va l'utiliser le dernier qui aura les meilleures bananes et qui va les vendre. Voyez. Donc c'est bien l'économie qui est à la base. Et on peut le comprendre, d'une certaine manière. On peut comprendre les gens qui, sur l'île, effectivement, ont besoin de cette économie, puisque c'est pratiquement la seule vraie économie du pays. Donc c'est la cupidité. Une fois plus, c'est mammon. Voyez. Alors, à qui la faute? Alors, on est tous fautifs. Hein. Les consommateurs qui encouragent l'intensivité de la production bah, sont aussi fautifs que ceux qui produisent, puisque les producteurs, on est dans une économie capitaliste libérale où le marché se régule normalement avec les consommateurs. Et donc, alors, par contre, on désigne facilement le fautif, hein, oubliant l'objectivité, la réalité qui est celle que je viens de vous décrire, où, bien sûr, les décisions étaient prises non pas par une personne, mais par un ensemble de personnes qui sont réunies pour dire qu'est-ce qu'on fait. Et hop, on continue jusqu'en 93. Alors, comment se comporter devant tant d'amalgames, devant tant de confusion et d'ignorance? Ben, c'est la clarté, le droit et l'autorité. Donc, je vais essayer de faire un peu de clarté sur de quoi on parle. Alors, quel est le droit? Eh bien, le droit, c'est, prenons la parole de Dieu, qui est le droit. La question débattue par Paul dans Romains 14. Et c'est très pertinent, Romains 14. C'est la raison pour laquelle on nous pousse à refuser ou accepter certaines manières de faire, de manger ou de considérer les jours de notre culture. C'était la problématique de Paul à l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, on peut tout à fait l'adapter à cette problématique que je viens de décrire. Alors, il faut prendre de la hauteur dans ces cas-là, en tant que chrétien, ne pas rester à répéter des choses qui se disent, mais à chercher le Seigneur et sa parole. Et donc, je vous invite à prendre la parole, parce que si on ne le fait pas, on fait le jeu de l'ennemi, qui est diviseur. Et il aime bien diviser. Et particulièrement les chrétiens et les églises. Et si on ne prend pas du recul, eh bien, on joue la division. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens rentrent dans ce jeu et qui détruisent eux-mêmes les églises. L'ennemi doit se marrer en regardant les églises, en voyant les chrétiens, voilà, prendre des positions comme ça, qui les divisent, même à l'intérieur des familles, souvent, ces divisions. Alors, je vous propose de prendre Romains 14. J'ai fait une sélection, mais je vous invite à lire tout Romains 14. Hein. Mais le temps me manque pour prendre toute la lecture. Donc, je prends le verset 5. Pour celui-ci, tel jour vaut plus qu'un autre. Pour celui-là, ils ont tous la même valeur, à chacun d'avoir une pleine conviction en lui-même. À l'époque, alors là, je n'ai pas fait d'études approfondies sur le problème des jours de l'époque, hein, mais à l'époque de Paul, il y avait des jours qui étaient plus importants que d'autres. Et il y avait des chrétiens qui considéraient que c'était important. Bon, on pense bien sûr au sabbat, par exemple, et au dimanche. Aujourd'hui, vous savez que une partie de la chrétienté, qui sont les adventistes, ils font le culte le samedi. Et ils prétendent qu'effectivement, c'est pas bien de le faire le dimanche. Mais bon, ils sont pas militants en croisade là-dessus. Mais n'empêche que c'est leur conviction. D'ailleurs, ça aide beaucoup l'église de Mantes qui a vendu aux adventistes, qui ont le culte le samedi, et ça leur permet d'avoir le culte le dimanche pour en profiter. Je ferme la parenthèse. Donc, à l'époque, il y avait un problème de ce genre-là entre les chrétiens qui divisait les chrétiens. Verset 13. « Cessons donc de nous condamner les uns les autres. » Donc, il y avait une condamnation de l'un à l'autre. Ah non, moi, admettons que ce soit le samedi et le dimanche, c'est peut-être d'autres jours, je n'ai pas vérifié. Moi, il faut faire le samedi, parce que c'est le sabbat, c'est ce que Dieu a instauré en Israël, etc., et il faut respecter le sabbat. Et d'autres disaient non, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, parce que Jésus est ressuscité le dimanche, etc. Et ils se condamnaient les uns les autres. Est-ce que nous arrivons, avec la vaccination, à nous condamner les uns les autres? C'est là l'actualité d'aujourd'hui. Alors prenez plutôt, alors voilà, je continue le verset 4-13, prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Voyez-vous, le fait de condamner, le fait de prendre une position, là, ça concerne les jours, mais ça peut être la vaccination, ben vous pouvez faire trébucher un frère. Trébucher un frère parce que vous voulez l'obliger à croire ce que vous croyez. Alors qu'en fait, on s'en fiche. Je veux dire, que ce soit le samedi ou le dimanche, ce qu'il faut, c'est amener un culte au Seigneur, vous voyez. Que ce soit vacciné, pas vacciné, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse servir le Seigneur ensemble, vous voyez. Je paraphrase un petit peu. Verset 19, je prolonge Romains 14. Ainsi donc, ça veut dire qu'il a fait une sorte de démarche d'explication et il arrive à une conclusion. Cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter un verre d'eau parce que je commence à plus pouvoir parler. Vraiment, je suis desséché. Alors, cherchons donc toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Voilà l'exhortation qui nous est donnée. Ne va pas pour un aliment, alors entre les jours et les aliments, puisqu'il parlait aussi des aliments, mais ça c'est dans les autres versets que je ne vous présente pas, vous voyez dans Romains 14, hein, pour les aliments, ils se battaient. Hein, parce qu'il y avait un aliment qui était pas bon, l'autre qui est bon, il ne faut pas manger, etc. Il y a des aliments qui renvoient des idoles, donc il y a des démons, etc. Tout ça, c'est un Romains 14 qui définit ça, mais je n'ai pas le temps ce matin de prendre tous ces détails-là. Mais tout ça, c'est derrière cette polémique sur les aliments. Donc je reprends verset 19. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de manger les aliments si cela risque de faire tomber quelqu'un dans le péché. Vous voyez la règle. Ça, c'est une règle générale qui s'applique à tous qui considèrent les choses de cette terre en attendant d'avoir, bien sûr, une autre vie, celle qu'on aura avec le Seigneur. Mais en attendant, il faut avoir des principes de paix entre nous, de règles qui permettent de vivre ensemble. Sinon, eh bien, on va retrouver la difficulté d'avoir des églises ethniques qui ont la même culture, la même pensée. Des églises sur le type racial ou sur le type comportemental ou sur le type idéologique, etc. Voilà. Alors qu'en fait, on est l'église que Jésus racheté. Il n'y a ni plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous voyez, on devrait tous vivre en bonne intelligence à l'intérieur d'une même église. Et avec ce qui se passe, petit à petit, l'ennemi va pousser ce qui est déjà en route, hein, qui est des églises spécifiques, spécialisées dans une certaine opinion qui devient une vérité. Et c'est ça qui est grave, vous voyez. Merci beaucoup. Alors je relis ce verset qui est un peu l'architecture générale de Romains 14. Ainsi donc, cherchons toujours, ça veut dire toujours. Dites toujours. C'est la parole de Dieu, toujours. Ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir. Vous voyez, l'idée, c'est qu'on grandisse ensemble, parce qu'on est destiné à quelque chose de plus grand que ce que nous sommes. Nous sommes destinés à sainteté, nous sommes saints, mais nous devons devenir saints, c'est la sanctification. Et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Ne va pas pour un aliment. On peut rajouter pour la vaccination, par exemple, la question de la vaccination, détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de manger les aliments. C'est-à-dire qu'il est mal de faire quelque chose quand on sait que l'autre n'est pas d'accord et qu'on le fait exprès. Pour la paix, eh bien, on fait semblant, on fait enfin, tout ce que vous voulez. Vous voyez, c'est cette diplomatie qu'on doit avoir envers l'autre en attendant. Et puis soi-même, on peut se faire vacciner, mais si on n'est pas d'accord, on n'impose pas aux autres. Voyez. Verset 22. Garde tes convictions. Intéressant, ça. Garde tes convictions. Au lieu de forcer l'autre à suivre tes convictions, garde tes convictions. Pour ce qui te concerne devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné par son attitude et qui ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Voilà le principe. Le principe. Je considère que ceux qui ne veulent pas se vacciner, ils ont leurs convictions. Sauf qu'il y a des conséquences. Mais ça, c'est un autre problème. Les conséquences, c'est biologique. Mais ça les regarde. Hein. S'il y en a qui prennent le risque. D'ailleurs, le bénéfice-risque, c'est ce qu'on parle dans tous les cas de médicaments. Hein, parce que tous les vaccins ont des effets secondaires. On le sait depuis la variole. Vous imaginez avoir un virus de la vache qui ne produise pas des effets secondaires. Il y en a eu énormément. Bon, ensuite, les antibiotiques provoquent des choses. D'ailleurs, quand vous achetez un médicament, c'est marqué dessus. Faites attention de ne pas dépasser telle dose, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une catastrophe. On donne des antibiotiques à tout. Aux poules, aux machins, parce qu'on a vu que la croissance, et bientôt, ils seront plus efficaces. Et on sera dans le beau drap. Vous voyez, c'est la cupidité des hommes qui fait problème. Mais bon, ça, c'est un domaine que je n'aborde pas ce matin. Mais aujourd'hui, c'est un gros problème. Les chevaux, ils mettent des antibiotiques partout pour qu'ils soient plus performants, etc. Bon. Donc, ce n'est plus tellement un remède. C'est une façon d'améliorer la compétitivité. Vous voyez. Alors, ma position personnelle, suite à ce que je viens de vous dire, ça tombe de source, et que je n'impose à personne d'autre, elle constitue ma foi. Ma foi qui est issue de la révélation et confirmée par la raison. Je renvoie au quadrilatère wesleyen de par mes compétences scientifiques. Ce vaccin à base d'ARN messager est une avancée majeure de la thérapie contre les virus, comme l'a été l'antibiotique contre les bactéries. Voilà ma position personnelle. Et il va permettre de sauver énormément de vies humaines. D'ailleurs, aujourd'hui, Pfizer est déjà prêt à sortir un vaccin contre le paludisme, qui est extrêmement grave dans les pays africains, enfin tous les pays autour de la zone tropicale. Hein. Bon, s'il y avait un vaccin contre le paludisme, je peux vous dire que ça va soulager énormément de monde. Contre le cancer, certains cancers de la peau, l'ARN messager va permettre de guérir. Peut-être mes enfants, d'ailleurs, pourront être guéris grâce à l'ARN messager, en tant qu'hémophile, vous voyez. C'est une avancée majeure, à laquelle nous sommes, de mon point de vue, les bénéficiaires. Nous voyons ça sous nos yeux, mais nous ne réalisons pas forcément parce que les connaissances nous manquent. Je bénis le Seigneur pour cette découverte majeure, qui est absolument incroyable. Mais je respecte ceux qui n'ont pas cette foi, ni cette connaissance, et qui ne conduit pas à cette conviction. Et donc, que je respecte. C'est pour ça, la première prédication, je l'ai fait sur la sagesse. Où la sagesse, c'est aussi une attitude comportementale. Et chacun, en fonction de sa raison, eh bien, prend des décisions. Sauf que il y a des conséquences à nos décisions. Oui. Souvent, on ne les assume pas. On voudrait que ce soit les autorités qui soient responsables. Il y en a qui meurent actuellement du Covid et qui ne sont pas vaccinés. Ils ont dit, si seulement je l'avais pris, c'est trop tard. Et devant leur femme, ils sont en train de mourir. Bon. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Ça n'a rien à voir avec la peur. C'est à faire avec une réalité que nous vivons aujourd'hui et qui est sous nos yeux. Alors, mon exhortation en tant que pasteur, avec l'autorité spirituelle que j'ai, et non pas politique ou sanitaire, eh bien, la vaccination n'est pas une question d'obéir ou de désobéir aux autorités politiques, je suis désolé. C'est une question de position vis-à-vis d'un virus. Concernant la situation actuelle, l'ennemi, ce n'est pas l'autorité, c'est le virus. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Dans une guerre, si vous trompez d'ennemi, vous êtes fichu. Ah, c'est lui la cause, et bien l'ennemi, il s'engouffre. Non, c'est le virus qui est problématique. Et ce virus attaque les hommes jusqu'à les faire mourir de terribles douleurs. Récemment encore, il disait que certains se recroquevillent comme un fœtus avant de mourir, tellement la douleur est forte. Les autorités ne sont pas l'ennemi. L'autorité, Dieu les a placés pour trouver des solutions, quelque chose qui les dépasse eux-mêmes, vous le savez bien. Que ceux qui veulent se faire vacciner se fassent vacciner par conviction. Voilà. Et que ceux qui sont opposés au vaccin, eh bien, à cause de leur conviction, ne cherchent pas à imposer leur point de vue aux autres. Ça aussi, c'est une règle de tolérance dans l'autre sens. Certes, il faut estimer les effets secondaires, qui ne sont pas encore là, parce que vous savez, dans les protocoles d'autorisation, il y a 4 phases. Et la 3e phase, c'est l'autorisation de mettre le vaccin à destination du public. Mais la phase 4 n'est pas terminée pour l'ensemble de ces vaccins. Et la phase 4, c'est quoi? C'est l'évaluation des effets secondaires. Et ceux qui disent « Ah, les effets secondaires », mais ils ont raison. Sauf que la vie, c'est un ensemble de décisions. Si je sors dans la rue, je peux me faire renverser. Est-ce que je décide de rester ou de sortir? Toute la vie est une question de décision. Donc, les effets secondaires ne sont pas tous connus, sauf la rougeur, bien sûr. Moi, j'ai eu un peu de rougeur ici. C'est les effets qu'on connaît aujourd'hui, qui sont apparus tout de suite à la phase 3. Mais il peut y avoir d'autres effets, effectivement. Donc, ceux qui ne souhaitent pas, parce qu'ils sont peut-être sensibles de quelque chose, rénaux ou autre, ils ont le droit. Parce qu'on n'a pas tout le recul. Il faudrait une dizaine d'années pour connaître tous les effets secondaires de toutes les personnes, de toute la planète, etc. Et puis qu'on vous mette ça là-dessus en disant « si vous êtes ça, prenez pas ». Donc aujourd'hui, je suis d'accord que tous les effets secondaires ne sont pas connus. Mais en tout cas, il y a eu 95% de réactions dans ces vaccins ARN qui immunise le corps et qui le protège contre l'attaque du virus. Que chacun respecte la position de l'autre pour favoriser la paix. Voilà ce que je préconise. Cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres. Romains 14, 19. Je termine juste en évoquant un autre sujet, mais que je ne vais pas développer. C'est un sujet connexe. Qui est sociétal, là c'était un sujet biologique, qui concerne notre corps, sujet sociétal qui est l'esclavage. Et c'est intéressant que Paul ait la même attitude pour la question de l'esclavage que la question des aliments ou du biologique. C'est la lettre à Philémon. Elle est très petite, vous pouvez la lire, qui est juste sur une page. Et c'est quoi cette lettre à Philémon? C'est intéressant. C'est un esclave qui s'appelle Onésime, qui était esclave, qui s'est échappé, donc il était dans l'illégalité, et qui a rencontré Paul, qui était en prison, alors il a peut-être été emprisonné, ils se sont rencontrés en prison, et il l'a amené au Seigneur. Il a amené un esclave au Seigneur. Et une fois qu'il était au Seigneur, eh bien, c'est Paul qui lui a dit, Tu retournes chez ton maître, mais en tant qu'esclave. Il n'a pas changé son statut. On pourrait dire, mais c'est une honte, quoi. L'esclavage, on a mis des années à le supprimer. Non, il a passé à un autre sujet, qui était le sujet de l'éternité. D'ailleurs, il le dira. Il a dit dans cette lettre, attendez, j'ai pris quelques notes là pour pas vous lire toute la lettre, hein, parce que c'est assez long. Mais Paul n'a jamais... ne s'est jamais insurgé contre la question de l'esclavage. Il a placé la situation d'Onésime dans la perspective éternelle du royaume de Dieu. Verset 15, il dit « Peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. » C'est-à-dire que Paul place la question de l'esclavage d'Onésime dans la question de l'éternité qui est plus importante. Quel est notre devenir? Notre vie ici-bas, elle est passagère. Mais notre vie éternelle, elle est éternelle, comme son nom le dit, pour toujours. Et c'est ça qui est important. Donc, c'est la focalisation d'une priorité. Paul a envoyé Onésime volontaire. Il n'a pas obligé à retourner chez son maître. Il a dit, voilà, je t'encourage, tu restes dans le statut d'esclave, mais je vais écrire une lettre à Philémon. Et c'est ça. Et c'est formidable, cette lettre, vous la verrez. Paul, il prie ce maître en disant, écoute, vois, moi, Paul, je te l'écris de ma main propre, je te rembourserai pour ne pas dire que je te dois toi-même à moi. Voyez-vous, c'est-à-dire que Paul met dans la balance le fait qu'il doit accueillir cet esclave, tout en restant esclave, mais comme si c'était un frère. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur, c'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. Voyez-vous, donc Paul, en fait, il insiste auprès d'un autre frère, qui est un maître, et d'un frère qui est esclave, qu'il se retrouve en frère. C'est-à-dire au-dessus de la mêlée. Voyez, c'est une question de priorité. L'évangile est une question de priorité. L'évangile ne nous amène pas à transformer la société, parce que cette société, de toute façon, elle va à la catastrophe. On n'a pas besoin de la pousser, elle y va toute seule. Mais on n'est pas obligé d'accepter l'injustice, mais on ne peut pas lutter contre l'injustice de manière militante. Il faut vivre avec le temps présent en étant dans la réalité céleste. Il faut avoir les pieds sur terre et la tête au ciel, pour le dire de manière très simple. Le chrétien est quelqu'un qui amène les valeurs du royaume sur la terre, mais qui n'est pas militant. Alors, il peut y avoir des exceptions, comme ça a été le cas de ce député qui, toute sa vie, a milité dans le Parlement anglais pour abolir l'esclavage. Je ne parle pas des exceptions, je parle de la généralité, des règles générales. C'est le même principe que Paul développe ici, qui développe dans Romains 14. Et où c'est une question de priorité. Nous sommes là, Jésus d'ailleurs, il l'a dit. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Quand il a été acculé par les autorités romaines, il n'a pas répondu. Parce que il sait que ce monde est passager, qu'il faut amener les valeurs, mais il ne faut pas avoir l'idée de la transformer, puisque le péché, de toute façon, tant qu'il n'est pas accepté par tout le monde, comme ce sera le cas dans le millénium, eh bien, Jésus ne peut pas régner sur des gens qui le refusent. Donc, soyons de ces personnes qui sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu dans ce monde, et que nous amenions les valeurs là où elles se trouvent. Je voudrais terminer en particulier pour la situation aux Antilles, pour prier sur ce que je viens d'évoquer, et prier pour ce peuple qui aujourd'hui souffre encore de ce chlordécone, qu'on comprend. Il y a des morts actuellement, pas que du Covid, mais du cancer. les hommes deviennent stériles, il y a les enfants qui naissent avec qui sont amputés, une capacité cérébrale à cause de ce poison, etc. Et donc on connaît les effets désastreux, et bien sûr, ils en veulent aux autorités. Mais ça développe la rancune contre les autorités actuelles, alors que c'est les autorités d'il y a 60 ans qu'il faudrait blâmer. Vous voyez, c'est toujours pareil. Ceux qui sont actuellement, ils trinquent pour ceux qui sont avant, qui n'y peuvent rien. Donc ça sert à quoi? Si ce n'est que de détruire l'œuvre de Dieu, détruire les familles, détruire les églises, parce que chacun veut prendre position sous prétexte d'être dans la justice. Ce n'est pas de la justice. La justice, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Et là, quand nous amenons des personnes comme des esclaves à Jésus-Christ, eh bien, eux, après, eh bien, ils ont la victoire dans leur vie. Et bien d'autres solutions que nous soyons des ambassadeurs de paix. Et en commençant par les frères. Amen. Seigneur, nous te prions pour cette situation qui est dramatique, c'est vrai, sur le plan, Seigneur, de la maladie, mais surtout aussi sur le plan de ces oppositions au sein même du peuple antillais. Nous te prions, Seigneur, afin que les chrétiens ne prennent pas position dans cette situation, Seigneur, pour raviver des choses, pour renforcer des rancunes, Seigneur, des choses qui vont détruire l'Église elle-même. Nous te prions, Seigneur, qu'il y ait la sagesse de prendre la distance, même si c'est douloureux, et de pardonner. Pardonner à ceux qui ont pris ces décisions et à demander ta protection, que ce soit sur la Covid ou sur le cancer, qui est la conséquence de ces choix cupides pour avoir plus de bananes et qui empoisonne maintenant pendant près de 700 ans cette population. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, bien sûr, pour ceux qui, à l'époque, ont pris ces décisions, mais en même temps, pardon, Seigneur, pour cette souffrance qui perdure et qui est en train, Seigneur, d'être le ferment de ces rébellions, de ces révoltes, de ces dissensions au sein même des chrétiens, des églises. Seigneur, nous te demandons pardon et te demandons de guérir, d'apporter la guérison, d'apporter à chacun, Seigneur, une paix qui puisse surmonter ces temps difficiles. Et qui ne ravive pas, Seigneur, ces tensions. Mais que, Seigneur, les chrétiens puissent regarder à toi. Regarder à toi et vivre les valeurs de l'Évangile. Vivre la puissance dynamique de l'Évangile. Et je te prie aussi pour notre pays à nous, en métropole, où il y a aussi des tensions, bien sûr, moins vives, mais qui existent, Seigneur, que dans les églises, les chrétiens puissent. Seigneur, accepter l'opinion de l'autre sans se mêler. Et Seigneur, simplement de le respecter. Parce que la vaccination, c'est le rôle de l'État, pas le rôle de l'Église. Et Seigneur, que chacun eh bien, puisse suivre, Seigneur, sa conscience. Nous te demandons vraiment ta grâce pour que ce temps où l'ennemi cherche à diviser, eh bien, l'Église puisse être préservée, gardée de cette division. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus. Amen.